Vous écoutez RFI, il est 18h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Lundi 10 mars, bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour faire avec vous le tour du monde de l'actualité. C'est la session soirée sur RFI, c'est parti pour 3 heures d'infos. Avec au programme dans 10 minutes le décryptage, Véronique Rigolet, et le grand défi qui est désormais concret pour l'Europe, celui de créer sa propre défense.
Oui, car l'Europe n'a désormais plus le choix face au brutal désengagement américain. Les 27 ont validé un plan de réarmement de 800 milliards d'euros. Premier pas vers la naissance d'une Europe de la défense. Mais l'Union européenne a-t-elle les moyens de ses ambitions? On en parle ce soir avec Sylvie Matelli de l'Institut Jacques Delors et Pascal Johannin de la Fondation Robert Schuman.
À tout à l'heure. Juste après, ce sera le débat du jour qui s'intéressera ce soir aux initiatives de boycott des produits américains pour protester contre la politique de Donald Trump. Campagne lancée au Canada qui se propage désormais en Europe du Nord et au-delà. Est-ce que ces campagnes sont efficaces? Voilà la question que nous poserons. Ces mouvements peuvent-ils aller jusqu'à infléchir l'action du président américain? Réponse à suivre dans 30 minutes. Dans une heure, le grand journal du soir, Diane Berger ce soir. Nous serons au Royaume-Uni pour évoquer cette collision inquiétante entre un pétrolier et un cargo en mer du Nord. 18h30, TU Afrique Soir, la première édition de ce lundi. 19h10, temps universel, votre session reportage sur RFI. Pendant 50 minutes, Action d'Europe sera ce soir en Ukraine auprès de vétérans impactés par l'arrêt des financements américains aux ONG. Enfin, le grand reportage ce soir au Pérou, auprès du peuple isolé des Machkopiro.
RFI.
Voilà pour le programme, mais pour l'heure, 17h de temps universel, c'est le journal de Karine Bellicha. Bonsoir Karine.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Et à la une ce soir, la Syrie et le bilan de la flambée de violence dans l'ouest du pays qui s'est encore alourdie. Et
le ministère de la Défense a annoncé avoir rétabli l'ordre. À Damas, on retrouve en direct Mohamed Erami pour en parler. Selon l'ONG OSDH, plus de 1000 civils ont été tués, en très grande majorité des Alaouites, la communauté de Bachar el-Assad.
Oui, la Syrie a connu ces derniers jours les pires violences depuis la chute de l'ancien président Bachar al-Assad. Mais pour le ministère de la Défense, l'opération militaire dans les villes et villages de la côte syrienne est un succès. Les autorités estiment avoir atteint tous leurs objectifs. Les combattants fidèles au régime précédent ont bien été éloignés des centres urbains et des institutions publiques vitales, a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, Hassan Abdelrani, en réponse à l'émoi suscité par les massacres documentés par des témoins et des organisations indépendantes. Le président syrien, Ahmad al-Shara, a confirmé que toute personne impliquée dans ces violations, quel que soit son niveau de proximité avec le pouvoir, devra répondre de ses actes. Le gouvernement dit travailler au rétablissement rapide de la sécurité et la stabilité afin que les civils puissent retourner au plus vite chez eux dans les régions de Latakia et Tartous. En revanche, il n'a toujours pas fourni de bilan exact du nombre de victimes. De son côté, le Centre syrien pour les droits de l'homme a indiqué avoir réuni des informations concernant la mort d'au moins un millier de morts parmi les combattants et les civils. Les résidents de la côte que nous avons pu contacter font la même évaluation. D'après eux, des familles entières auraient été décimées.
Mohamed Erami, en direct de Damas. L'ONU dit s'inquiéter des graves conséquences pour la population gazaouie. Après avoir suspendu l'aide humanitaire la semaine dernière, l'État hébreu a décidé de cesser de fournir de l'électricité à Gaza. Les dirigeants israéliens entendent mettre la pression sur le Hamas avant un nouveau round de discussions sur la trêve à Doha. La proposition d'un cessez-le-feu partiel des Ukrainiens est jugée prometteur par Marco Rubio. Volodymyr Zelensky tente de renouer avec l'administration américaine. Après avoir été pris à partie dans le bureau ovale, il l'assure, son pays souhaite la paix et envisage une trêve dans les airs et sur mer. Le président ukrainien est en Arabie Saoudite pour rencontrer le prince héritier Mohamed Ben Salman avant une rencontre annoncée comme cruciale entre son équipe et une délégation américaine demain à Jeddah, emmenée par le chef de la diplomatie américaine. La diplomatie américaine lancée à toute vitesse, les décisions économiques de l'administration Trump s'enchaînent aussi et les premiers effets sont déjà là. Chômage et inflation en hausse, croissance moins importante que prévu, les mesures spectaculaires prises par le président américain inquiète les milieux économiques, les bourses reculent. Justine Fontaine, bonjour.
Bonjour.
Tesla, la marque de voitures d'Elon Musk, est particulièrement chahutée.
Oui, moins 13% en ce moment à Wall Street. La valeur en bourse de Tesla a été divisée par deux depuis décembre. Au départ, certains acteurs financiers pensaient que la proximité du milliardaire d'origine sud-africaine avec le nouveau président pourrait favoriser l'entreprise. Le cours de Tesla a donc d'abord grimpé, mais l'euphorie n'a pas duré. Les licenciements massifs ordonnés par Musk de milliers de fonctionnaires, mais aussi son salut nazi, ont pesé à la baisse sur les intentions d'achat de Tesla. Des appels au boycott ont été lancés, des manifestations contre la marque et son patron ont eu lieu ces derniers jours aux États-Unis et en Europe. Par ailleurs, les acteurs financiers croient de moins en moins aux promesses sans cesse repoussées d'Elon Musk de parvenir rapidement à des véhicules autonomes sans chauffeur. Et puis, ce qui inquiète surtout les marchés, ce sont les ventes de la marque. Elles sont en chute libre, divisées par deux en janvier en Europe, idem en Chine en février, par rapport à la même période l'an dernier. Enfin, Tesla met du temps à renouveler ses modèles, alors que la concurrence est de plus en plus forte sur le marché de l'électrique.
Justine Fontaine du service éco d'RFI. Direction l'Allemagne, à présent en un temps record. Friedrich Merz, le futur chancelier conservateur, s'est mis d'accord avec le SPD pour bâtir un gouvernement de coalition, décider d'un plan historique d'investissement massif pour renforcer l'armée allemande et faire repartir l'économie. Mais il faut pour cela réformer la Constitution, ce qui requiert une majorité qualifiée des deux tiers et l'approbation des Verts. On retrouve Pascal Thibault à Berlin pour en parler. Pascal, les écologistes allemands ont décidé de s'y opposer.
Effectivement, ils l'ont précisé aujourd'hui à la mi-journée. Alors, plusieurs raisons expliquent ce refus. Sur la forme, les écologistes n'apprécient pas qu'on les ait mis devant le fait accompli sans discuter avec eux. Et puis, il faut rappeler que les chrétiens démocrates ont par ailleurs tiré à boulet rouge sur les Verts durant la campagne. Et ces derniers, les écologistes, eh bien, ils jouent la saucisse vexée, comme on dit en allemand. Le président du parti écologiste a parlé même d'un chantage. Sur le fond, les Verts craignent que chrétiens et sociaux-démocrates aient opté pour le quoi qu'il en coûte pour financer d'abord leurs promesses électorales respectives et pour satisfaire différents groupes catégoriels, agriculteurs, retraités, automobilistes. Et puis la quasi-absence du climat dans l'accord provisoire présenté samedi par chrétiens et sociaux-démocrates eh bien, provoque la colère des écologistes. Alors maintenant, que va-t-il se passer? Les Verts jouent-ils un coup de poker pour arracher des compromis, notamment sur l'environnement, avant une cure dans l'opposition? Des discussions sont prévues dès ce soir avec eux. Si elles devaient échouer, cela serait un coup dur pour Friedrich Merz. L'absence de réforme de la Constitution remettrait en cause le bazooka géant au profit de la défense et des infrastructures. Les négociations avec les sociaux-démocrates qui doivent débuter jeudi pour constituer une coalition seraient bien plus compliquées.
Et on suivra ces discussions avec vous, Pascal Thibault, en direct de Berlin. En France, le gouvernement a présenté ce matin son troisième plan national d'adaptation au changement climatique. 52 mesures pour davantage protéger les populations, mieux anticiper les risques et améliorer la résilience des territoires. Mais pour les associations, ce plan n'est pas assez ambitieux. Pauline Glaise.
Se préparer à l'augmentation des incendies, adapter les conditions de travail en obligeant les employeurs à faire davantage de prévention ou encore protéger la population des risques naturels en montagne, voilà quelques-uns des grands objectifs fixés par ce plan. Élise Nakarato d'Oxfam salue la présentation d'un plan d'adaptation, mais reste sur sa fin.
C'est très bien que la question de l'adaptation soit portée par le gouvernement, mais malheureusement, en fait, le plan national d'adaptation au changement climatique, il s'arrête au milieu du gué. Il dit la direction où il faut aller, mais il ne donne pas les moyens d'action ni la forme de mise en œuvre.
Autre point clé, le financement. La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a insisté sur l'intérêt économique de s'adapter. Mais Vivian Despoues du think tank I4C craint que le compte n'y soit pas.
On ne dispose pas de chiffres du besoin total de combien il aurait fallu, tout sujet confondu. Mais pour prendre qu'un seul exemple, elle a annoncé 30 millions d'euros pour la prévention du risque de retrait gonflement des argiles et les différentes propositions qui étaient sur la table citaient plutôt l'ordre de grandeur de 100 millions.
Il salue en revanche la volonté de donner une valeur juridique à la trajectoire, la hausse de température de référence prise en compte pour l'adaptation. Une fois actée, cette trajectoire devrait par exemple avoir un impact sur les plans locaux d'urbanisme.
Enfin, selon les gardes-côtes britanniques, il y a un risque de pollution en mer du Nord. Une collision entre un cargo et un pétrolier au large des côtes anglaises a fait au moins 32 blessés et l'un des réservoirs du navire contenant du pétrole a été endommagé. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le décryptage de Véronique Rigolet.